RCF.
Les médias et l'Europe, c'était le thème d'une table ronde organisée le 9 avril avec 9 journalistes, dont un journaliste de RCF devant 100 lycéens sartois. Aujourd'hui, premier épisode de cette table ronde, existe-t-il une opinion publique européenne ? Réponse de Marie-Christine Vallée, journaliste à France Info.
J'ai à un moment fait sur France Info une chronique qui s'appelait « Questions pour l'Europe ». Et donc les auditeurs appelaient sur un téléphone, laissaient enregistrer une question. Et j'étais chargée de trouver un invité qui répondait à la question. Et c'était au moment où on allait mettre en place l'euro. C'était avant, 98, 99, 2000. Il y avait une attente de cette Europe. Mais vraiment, c'était trop. C'était vraiment l'Europe allait avoir une couverture, une protection sociale formidable. Un jour, on allait bâtir des États-Unis d'Europe. Enfin, c'était des questions d'une espérance et d'une attente qui vraiment étaient assez frappantes. Et puis, il y a eu la crise. C'est cette crise qui a complètement changé l'image de cette Union européenne qu'on construit depuis des années entre les pays et on s'élargit. On est à 28 maintenant. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Oh là là, ça nous a pas protégés, on a un coup d'arrêt sur l'économie, il y a des licenciements, l'Europe est en crise économique, en crise financière, qu'est-ce que ça va donner ? L'Europe nous a pas protégés, c'est toujours la phrase qui revient, et l'image de cette Europe a vraiment été complètement changée. Et moi j'ai pu faire la différence entre cette attente, en gros des années 2000, ou un petit peu avant, et maintenant.
Mais n'est-ce pas parce que les institutions européennes semblent éloignées des préoccupations des citoyens ? Édouard Perrin, journaliste à Cache Investigation et auteur d'une enquête sur l'optimisation fiscale au Luxembourg.
Moi, à mon simple niveau, sur cette enquête qui m'a emmené au Luxembourg, je peux vous dire que c'est absolument tout sauf de la solidarité et du partage. Et que les schémas et l'utilisation des institutions, et là je blâme pas les institutions, je blâme les tuyaux qui ont été mis en place par les institutions, et l'absence de contrôle de ces tuyaux, tous ces schémas servent à un très petit nombre de personnes et leur rapportent beaucoup d'argent, tout en pillant les trésors publics d'un certain nombre de pays de l'Union. À titre d'exemple, je ne sais pas si vous avez vu ça, c'était à l'entrée de la salle, je ne sais pas s'il en restait. Donc c'est Europe, le magazine des jeunes curieux, c'est publié par la Commission européenne. Et donc on découvre que les Luxembourgeois sont quand même super forts parce qu'ils ont un PIB qui est à peu près, au moins plus du double de celui de tous les autres pays européens, Allemagne comprise. Il n'y a aucune question de poser sur pourquoi les Luxembourgeois sont si forts et si riches finalement. Et tout est décrit dans ce petit schéma, c'est-à-dire que on va utiliser des données, on va les donner aux citoyens sans expliquer. Alors nous, est-ce qu'on forge une idée européenne ? Est-ce qu'on décrypte une image européenne ? Ouais, j'espère qu'on arrive à décrypter, tout au moins à expliquer des choses qui sont suffisamment compliquées. Et là, pour le coup, pas du tout sexy, parce que mettre à la télévision des schémas d'évasion fiscale, c'est pas facile. Moi, je pense que l'idée européenne, elle est avant tout là-dessus. Elle est d'un trésor commun. Et le trésor commun en temps de crise, c'est avant tout un trésor public. Et c'est d'argent qu'il s'agit, quoi. Et je pense qu'il faut remettre cette notion-là bien au centre. Peut-être arrêter avec les discours angéliques sur voilà, l'idée européenne, c'est bien et c'est beau. Et vous verrez, dans 20 ans, on sera tous heureux. Voilà.
Henri de Bresson, ancien correspondant du Monde à Berlin.
Effectivement, il faut sortir du discours angélique. Mais il y a longtemps qu'on en est sorti, d'une certaine manière. J'ai passé beaucoup d'années de ma vie dans des pays européens, dans des pays non européens. Et maintenant, je suis revenu dans la Sarthe. Je suis sartois au bord du Maine-et-Loire. Et quand même, depuis tout ce temps-là, je veux dire, l'image de ce que les gens ont du monde, elle a beaucoup changé. Il y a 40 ans, 50 ans, quand on allait dans les exploitations agricoles, la Sarthe, l'Europe, c'était quand même quelque chose qui se résumait pour beaucoup aux grands-oncles ou aux grands-parents qui étaient revenus des camps d'Allemagne ou des choses comme ça. Je m'en rappelle d'un vieux copain agriculteur, il y a une quinzaine d'années, qui avait mis pour la première fois un pied en Allemagne, à Kehl, parce que c'était un... Il aimait bien manger, il aimait bien boire, et ils avaient décidé d'aller faire un tour avec leurs copains à Strasbourg. Et quand même, une fois à Strasbourg, ils se sont dit, c'est con, on est juste à côté de l'Allemagne. Alors ils ont franchi le pont, ils sont allés à Kiel, il est revenu, il m'a dit, ah ben c'est quand même pas si mal là-bas finalement, hein, c'est ordonné et tout, c'est bien, ça pourrait être quelque chose pour nous. Et ça, je veux dire, on se rend pas bien compte, mais vous tous, vous avez probablement mis à un moment ou à un autre un pied en Europe. Moi, j'ai des enfants à la Flèche, évidemment, ils sont allés, je sais pas combien de fois... en Europe, même ils sont petits, donc et je veux dire ça fait partie de leur monde. Et même dans les villages que je côtoie où on vote à 25, où on a voté jusqu'à 45% Front National aux dernières élections d'arrondissement, on se dit l'Europe ça sert à quoi si on peut pas effectivement avoir du travail pour les choses. Et ça c'est une bonne question, mais c'est aussi une question du fonctionnement de notre société qui n'arrive pas à générer les solidarités auxquelles les gens étaient peut-être habitués avant. Donc il y a une peur, et ça, c'est effectivement les retombées de la crise.
Julia Badea-Guerité, journaliste à Vox Europe.
Qu'est-ce que c'est l'espace public européen ? On n'a pas la même culture. On n'a pas une presse européenne, un média européen qui soit un seul, et qui soit vraiment perçu comme européen, pas pro-européen. Et troisièmement, on n'a pas une langue commune.
Lors d'une rencontre avec le directeur adjoint de la rédaction de El País, le plus important journal espagnol, Xavier Vidal-Foc, tu dois le connaître. Il m'a dit comme ça, le problème des médias européens, c'est que, médias nationaux européens, c'est qu'ils écrivent chaque fois comme s'ils étaient lus seulement par les gens qui habitent dans le pays où ils sont imprimés. Par exemple, c'est que les Espagnols qui lisent El País. Ils n'ont pas compris, ils ne veulent pas comprendre qu'il s'agit d'El País ou Guardian ou Süddeutsche Zeitung ou Adever ou en Roumanie, que quand ils écrivent aujourd'hui, ils sont lus par beaucoup plus que leurs concitoyens. Ils sont lus par des Européens. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on apprend par exemple l'anglais un peu partout, l'allemand aussi un peu partout, même le roumain en France. On ne sait jamais qui nous lit. Donc si la presse peut apprendre à écrire... Les journalistes commencent à parler à leurs lecteurs par des images qui peuvent être comprises par un Allemand, un Américain, un Français, un Lituanien, un Suédois. Si on fait des reportages qui peuvent parler au-delà des mots, si on écrit des articles qui peuvent intéresser, il suffit juste de changer un peu l'angle ou d'utiliser les bons mots ou de raconter un peu plus pour se faire comprendre. Je pense qu'on peut dévoiler l'identité de l'autre. On peut toujours faire le plus simple, c'est-à-dire montrer que l'autre est comme nous. Nous sommes l'autre. J'aime bien une citation de Camus qui disait dans La Peste, « Cette histoire nous concerne tous ». C'est un peu ça. Ce qui se passe dans un autre pays avec l'autre nous concerne tous. Et puis ce même journaliste disait que s'il était professeur de journalisme, il ferait lire un seul livre à tous les futurs étudiants, les futurs journalistes et étudiants en journalisme. Et ce livre, j'ai dit, c'est quoi ? Eh bien, c'est simple, c'est « Identité meurtrière » par Amin Maalouf. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. C'est juste 100 pages, c'est pas un très gros livre, mais le thème, le sujet de ce livre, c'est que chacun de nous est formé, devient plus tard l'adulte, qui est différente des autres mais qui est pareil aux autres, suite à des identités qu'ils traversent et qu'ils rencontrent pour devenir adultes. C'est-à-dire les personnes qui traversent ta vie, les personnes avec qui tu parles, tu échanges, tu écris des lettres, tu discutes. Et voilà, je pense que c'est une bonne manière de faire avancer les choses.
Une lycéenne interpelle les journalistes, elle leur demande de comment cela se fait que le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, un des hommes les plus puissants d'Europe, soit quasiment inconnu en France. Réponse de Fabrice Pozzoli-Montenay de l'Association des journalistes européens.
Sur la représentation, par exemple, de M. Juncker, je dirais, vous n'avez pas tort, je crois que beaucoup de gens ne le visualisent pas, ne le connaissent pas, ne connaissent pas son parcours, et c'est un des grands problèmes qui existe. Déjà, je dirais, ne serait-ce que le député européen pour lequel on a voté en 2014, je suis à peu près sûr qu'au moins la moitié d'entre vous ne connaissent pas vos députés européens qui siègent actuellement au Parlement. Donc oui, je crois qu'il y a un vrai problème de lien physique entre le citoyen et les institutions européennes. Et je dirais, il y a aussi un vrai problème. Là, vous parlez de M. Juncker. Je crois qu'une des choses que je constate aussi, c'est que quelqu'un comme M. Juncker ou M. Barroso avant lui, Ils préfèrent s'exprimer dans un journal comme The Economist ou à une agence comme Bloomberg, etc., qui va traiter de l'économie. Et il ne va pas aller s'exprimer dans West France ou dans des médias locaux. C'est des stratégies de communication qui, moi, me semblent effectivement pas bonnes, tout simplement, mais qui se perpétuent depuis quelques dizaines d'années maintenant et qui, effectivement, me semblent aller dans le sens d'une distance très forte entre les institutions et les citoyens. Mais ceci dit, il faut aussi se rendre compte que les budgets de communication de l'Union européenne, c'est peanuts, c'est dérisoire. Vous connaissez vos maires, vous connaissez vos députés, vous connaissez les ministres français, et encore, on les connaît peut-être pas tous, mais dès qu'on passe au niveau européen, c'est terra incognita pour beaucoup, beaucoup de lecteurs ou d'auditeurs. Et là, je crois qu'effectivement, c'est très difficile de créer ce lien.
Mais Fabrice Pozzoli-Montenay reste optimiste sur le sentiment européen des citoyens.
Cette opinion publique, tout à coup, si découverte européenne, entre la Grèce, entre l'Espagne, entre l'Italie, maintenant en France, à travers ces souffrances, à travers le chômage, à travers l'austérité. On entend sans arrêt dire Bruxelles a imposé de réduire le déficit, ce qui va obliger à faire des économies, ce qui s'est passé en Grèce, ce qui s'est passé en Espagne. L'Europe est devenue quelque chose présenté de façon très négative. Et là, je m'inscris un peu en porte-à-faux par rapport à ce qui a été dit jusqu'à maintenant. Et je crois que c'est vraiment la tendance très très forte de ces dernières années. L'Europe n'est plus devenue un rêve européen positif, c'est devenu, et ça se voit dans les élections, à travers toute l'Europe, je ne pense pas seulement à la France, mais dans de nombreux pays européens, on voit que l'Europe est vécue comme un repoussoir, même un repoussoir démocratique. Vous savez qu'en Grande-Bretagne, un des partis qui monte le plus rapidement, c'est le UKIP, le parti pour l'indépendance de la Grande-Bretagne. On sait qu'aux Pays-Bas, en Belgique, on a des partis anti-européens qui montent. On en voit apparaître en Allemagne, ce qui est très nouveau parce que ce n'était absolument pas le cas jusqu'à aujourd'hui. Je ne parle même pas du vote Front National en France qui n'a jamais été aussi fort. Moi, ce que je constate, c'est que cet espace public européen, en ce moment, ce qu'il exprime de façon très virulente, c'est aussi un rejet de l'Europe telle qu'elle est vue, perçue par les citoyens. Et je crois qu'en tant que journaliste, on ne peut pas faire l'impasse là-dessus.
Et justement, nous verrons demain quelle place les médias francophones donnent à l'Europe dans le deuxième épisode de cette table ronde. Rendez-vous à 8h45, 12h15 et 19h30 sur le 101.2.